하나의 공유를 긁어보시오.
Bonsoir. Révision de la loi électorale, le réseau des ONG des droits humains et d'éducation civique RODECI propose entre autres que les gouverneurs, les sénateurs soient directement élus par la population et que les Congolais de l'étranger puissent avoir droit au vote. Quelle analyse faire de ces propositions? Quelles sont les autres dispositions de la loi électorale qui pourraient faire l'objet de révision? Participe à cette émission Maître Adine Omokoko, membre du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Elle a pris part à l'atelier organisé par le RODECIC. Madame Adine Omokoko, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Tshibangu Kalala, professeur de droit, député national et président du parti politique Notre Beau Pays. Professeur Tshibangu, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Auguste Mampouya, professeur de droit et président du parti politique Rassemblement des démocrates pour la rupture et le renouveau RADER. Professeur Mampouya, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à réagir. Raymond Bouy, je suis partisan de l'élection des gouverneurs et des sénateurs au suffrage universel direct, du fait qu'elle donnera une crédibilité aux élus et leur donnera le souci de travailler pour rendre compte à leurs bases respectives, au lieu qu'ils rendent compte à un groupe de gens facilement manipulables, tel que nous l'avons vécu au cours de cette législature. Mbokolo de Mbandaka à l'Équateur, toutes les propositions faites par les ONG paraissent utiles et réelles, car une bonne démocratie est celle où le peuple souverain élit ses représentants et ses dirigeants à toutes les échelles. Nous proposons aux législateurs de penser lors des prochaines élections au niveau d'études des candidats. Nous sommes mercredi 9 mars 2011. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocatu.net.
La question de la révision de la loi électorale de 2006 a préoccupé les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine électoral. Réunis en session la semaine dernière à Kinshasa, les participants ont proposé aux politiques la vision du peuple congolais pour qu'il y ait des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Une vision qui fera l'objet d'un plaidoyer des acteurs non étatiques auprès des politiques. Jean-Baptiste Ndundu, vous êtes le secrétaire exécutif intérimaire du réseau des ONG des droits humains et d'éducation civique d'obédience chrétienne RODECIC. Quelles sont les dispositions susceptibles d'être révisées?
Il y a particulièrement de l'expérience que nous avons eue à l'observation électorale en 2006, nous nous étions bien rendus compte que le suffrage universel indirect posait problème. Et on s'était dit que pour arriver à voir les élus produire des effets suffisamment bénéfiques pour les populations, il était important qu'un certain nombre d'élus au suffrage indirect puissent l'être de manière directe. Il y a l'élection des sénateurs, mais il y a aussi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui étaient élus par les assemblées provinciales. Nous, on aurait voulu que la population vote directement et les gouverneurs et les sénateurs. Il y a aussi la parité homme-femme. Nous avons constaté que lors des élections de 2006, cette parité n'a pas été respectée. Si les listes sont des listes qui sont zébrées, on pourra permettre à ce que la femme soit suffisamment représentée. Nous pensons qu'il est important, particulièrement en ce qui concerne la localisation des bureaux de vote, qu'on puisse effectivement ne pas permettre à ce que les distances soient trop éloignées, parce que ça décourage les électeurs. Il est important que même dans la loi électorale, on fixe un maximum de kilométrage, un maximum de distance entre deux bureaux de vote, pour permettre à tous les électeurs de pouvoir effectivement accomplir leurs droits. Avec l'acquisition des passeports, on pourrait se servir de cette base-là également pour pouvoir prendre en compte les Congolais vivant à l'étranger. S'il est possible de les identifier, on peut les enregistrer et leur permettre effectivement de pouvoir jouir de leurs droits.
Les propos de Jean-Baptiste Ndoundou du Rhodesie ont été recueillis par Stéphane Moukengintita. Mais Sabine Omokoko, lire les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs directement par la population, par la population au lieu du scrutin indirect des députés provinciaux, accorder le droit de vote aux Congolais de l'étranger, cela se ferait avec quels moyens quand on sait que l'élection du président de la République a été réduite à un seul tour, faute de moyens.
Bon, je pense que la problématique des moyens qu'on est en train d'avancer ne nous tient pas à compte. C'est vrai que les organisations de la société civile ont fait l'évaluation du processus électoral de 2006. Jean-Baptiste, qui a intervenu tout à l'heure, a brossé un peu ce qu'ont été les constats faits lors de l'évaluation de 2006. C'est ce qui a motivé même la tenue de l'atelier de la semaine passée au CEPAS. Évidemment, les propositions d'amendement par rapport à l'élection du gouverneur, du vice-gouverneur et du sénateur au suffrage universel direct a constitué la préoccupation de l'orientation de la société civile, tout simplement par rapport aux recommandations de l'évaluation pour dire que c'est une question de redevabilité que la population a besoin auprès des personnes qui devront avoir un pouvoir sur leur vie quotidienne, un pouvoir de décision et d'orientation politique par rapport à tout ce qu'ils vivent. Et c'est tout à fait normal que cela soit désigné par la population directement. Donc la question des moyens, je ne pense pas que cela puisse poser problème parce que de toutes les façons, lorsqu'on a voté le budget de 2009 et même 2010, il y en a inscrit la question de l'organisation des élections. Je ne pense pas que cela pourrait être un problème majeur par rapport à cette élection.
Maître Adine Omokoko, je vous demanderai simplement d'éteindre le poste radio qui est à vos côtés parce qu'il y a un effet retour ici au studio. Vous pouvez nous suivre sur votre téléphone portable. Alors, les sénateurs, les gouverneurs, ils seront élus, d'après vous, par la population, mais en même temps, avec la constitution révisée, ils seront révoqués par le président de la République. Comment vous expliquez ça?
Ils sont élus par la population, mais ils agissent au nom du gouvernement, pour ce qui est du gouverneur de province, ils agissent au nom et pour le compte du président de la République. Ce sont ses représentants au niveau de la Chambre et de la province, parce que le président il ne peut pas être au même moment partout. Et les sénateurs, ils ont un mandat provincial, parce qu'ils sont élus en rapport avec les provinces, et nous estimons que bon, s'ils doivent représenter la population, ils doivent être élus par la population. Et c'est, quant à leur, comment on a dit, à leur déchéance par rapport à leur mandat électoral, si c'est le président de la République qui doit le faire, évidemment le président de la République est le garant de la nation et il estime, il a les pouvoirs qui lui sont donnés pour qu'on arrive pour agir au nom de la population.
Voilà, prenons cette réaction, Maître Adine Omokoko, qui s'engage en province orientale pour vous.
Maître Wilson Abirodou, en province orientale, justement, qui s'engage pour le moment. Je suis très content de toutes les propositions présentées par la société civile par rapport à la révision de la loi électorale prochaine. Ce que je constate est que cette proposition vient presque à l'état, puisque la proposition de la société civile devrait venir pendant la révision de quelques articles de la Constitution.
Réaction, Maître Adi Momokoko.
Oui, cette préoccupation est nôtre aussi. Je crois que les termes de référence qui ont préparé l'atelier, et même dans les interventions qu'on a eues pendant l'atelier, nous avons déploré le fait que la société civile soit écartée lorsqu'il y a eu des discussions par rapport à la révision électorale. Or, aujourd'hui, partout dans le monde, pour un bon fonctionnement, une bonne gouvernance, il est admis qu'il y ait une tripartite entre société civile, pouvoir politique en place, opposition et même partenaires multilatéraux pour arriver à trouver un consensus. par rapport aux options que l'on prend pour la gouvernance de la société. Et la société civile a décrié cela, et mais je pense que dire que nous sommes en retard, c'est vrai, mais bon, on peut toujours se rattraper. La société civile doit profiter de stratégie, chercher à toucher d'autres leviers pour que nous puissions nous rattraper comme ça fait.
Alors, avant de donner la parole aux autres intervenants, vous proposez également de fixer un maximum de distance dans la loi électorale pour réduire les distances entre les bureaux de vote. Êtes-vous réaliste?
Oui, réaliste. Pourquoi? Parce que nous avons fait l'observation électorale en 2006. Déjà, même à Kinshasa, pour nous qui avons fait la cartographie de la ville, pour nous qui avons travaillé au niveau de la ville, nous avons constaté que dans les coins périphériques de la ville, ça a été difficile pour les jeunes, pour les femmes et même les vieillards de faire des longues distances pour aller voter. Donc, il serait mieux que, bon, par rapport à la loi, si nous n'arrivons pas à l'avoir, mais du moins, les mesures d'application de la loi que le bureau de la CENI actuelle va proposer contiennent compte de la distance, parce que les élections sont une obligation pour la population et même un devoir. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à priver à d'autres, à la population, son droit le plus légitime, c'est de voter des représentants et les personnes qui devront les diriger plus tard.
Professeur Mampouya, comment vous analysez ces propositions des ONG?
Merci bien pour la question. Ce sont des propositions qui sont inspirées par de bons sentiments, bien évidemment, la démocratie, il faut que la population s'agisse. Au-delà du fait que c'est un peu tard, parce que la Constitution ne le dit pas, la loi électorale ne pourra pas être changée dans ce sens-là, parce que la Constitution dit autre chose en ce qui concerne l'élection des sénateurs, par exemple.
Mais elle a dit qu'il y a toujours moyen de se rattraper.
Écoutez, qu'on prévoit une autre révision constitutionnelle, il faut la proposer. Il ne faut pas parler seulement de la loi électorale, je suis d'accord là-dessus. Mais seulement, pour ce qui concerne les gouverneurs, et généralement, tous les exécutifs provinciaux, urbains, municipaux, etc., je ne suis pas d'accord avec cette proposition.
Pourquoi?
Parce qu'il s'agit d'organiser la gouvernance provinciale, locale, etc. Or, cette gouvernance suppose que le gouverneur appartienne à une majorité et que, avec cette majorité, il mette en place, il mette en œuvre la politique choisie par la majorité. Or, nous sommes là, dans cette proposition, on crise quelque peu une conception monarchique du pouvoir. On nous dit le gouverneur qui doit impacter sur la vie des citoyens, il faut que ce soit les citoyens qui l'élisent, etc. Supposons que vous élisiez un gouverneur de cette manière-là, les élections législatives ou provinciales donnent une autre majorité, le gouverneur va appliquer quelle politique? Je crois que nous n'avons pas inventé l'eau chaude. Les élections de ce genre ont été inventées ailleurs. Nous ne voyons pas l'Amérique. L'exemple américain est unique, n'est-ce pas? Il ne faut pas voir ça. Ou dans les États véritablement fédéraux, comme le Mexique, etc. Mais dans un État comme le nôtre, nous voyons l'exemple de l'Europe occidentale, notamment de la France, où il y a des assemblées régionales avec des présidents des assemblées régionales. Eh bien, pour permettre, comme on le fait au niveau de l'Assemblée nationale, que l'exécutif émane de la majorité et que l'exécutif applique la politique de sa majorité, eh bien, on fait tout simplement de la même manière qu'à l'Assemblée nationale. La majorité qui est élue à la tête de la province désigne l'exécutif et ce sera cohérent et ce sera harmonieux. Plutôt que de faire ce qui s'est passé la fois dernière, c'est quoi? C'est qu'on a fait élire les gouverneurs par l'Assemblée, en dehors de l'Assemblée, des gens qui n'avaient jamais été élus nulle part. On le voit dans beaucoup de provinces d'ailleurs. Ils avaient été à toutes les élections, ils ont échoué. Et puis, avec un peu de tout, je ne critique pas quelque chose qui n'existe pas. Avec de l'argent, on a pu voir des gens venant de nulle part. S'imposer au sein des assemblées provinciales, être élu gouverneur ou vice-gouverneur, etc. On a ainsi bouleversé toute la loi de la démocratie, lorsque le peuple avait élu telle majorité, on a trouvé que ce sont d'autres qui sont devenus gouverneurs. Alors ce qu'il faut, c'est ce qui s'est passé. On savait que l'ANP a raflé toutes les directions provinciales à cause de ce système-là. Ce qu'il faut, c'est que la majorité qui est élue par le peuple de la province à la tête de l'Assemblée provinciale désigne des exécutifs, comme cela se fait au niveau de l'Assemblée nationale. De même, moi, je suis d'accord pour le vote des Congolais à l'étranger. Je serais pour cela de modifier l'article 5 de la loi électorale. Et après cela, faire en sorte que nos ambassades qui sont aussi, on n'a pas besoin de deviner quoi que ce soit. Nos ambassades peuvent très bien enregistrer les Congolais qui vivent dans chaque pays et organiser des élections. Comme ça se fait, certains pays africains le font aussi. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas quelque chose de trop difficile. On pourrait très bien le faire pour permettre aux Congolais, y compris ceux qui ont ce qu'on appelle la double nationalité, ça ce sont les propositions de nos partis politiques, qu'ils aient la possibilité d'exercer leur citoyenneté pleine et entière, comme tous les autres Congolais.
Puisque vous parlez de Congolais de l'étranger, professeur Mampouya, prenons cette réaction qui nous vient de Philippines.
Salut Katembo, aux Philippines, c'est un Extrême-Orient. J'épouse la proposition de la société civile par l'élection de gouverneur et sénateur au suffrage indirect qui a été émaillé de corruption, du trafic de fluence, des composantes. Et si le pouvoir a déjà fait passer la loi sur le scrutin présidentiel en un seul tour, qu'il fasse preuve de souplesse démocratique en écoutant la population si elle réclamait l'élection de ce gouverneur. Gouverneur et sénateur au suffrage direct. C'est aussi un droit légitime des Congolais de l'étranger de se prononcer par vote au leadership de notre pays.
Alors, j'ajoute deux petites réactions, professeur. Mamboura de Bénion-Orkivu, par manque des moyens, l'élection présidentielle sera à un seul tour. La CENI aura-t-elle les moyens pour que les gouverneurs et sénateurs soient élus par la population? C'est presque la même réaction que maître Juvenal Munubo Mubi de Goma en Orkivu. L'idéal serait que les sénateurs et gouverneurs des provinces soient élus au suffrage universel direct. Ceci réduirait les tentatives de corruption au sein des assemblées provinciales. Cependant, un tel pari ne peut réussir que si des moyens financiers et logistiques importants sont mobilisés. Cela vaut pour les Congolais de l'étranger.
Pour les Congolais de l'étranger, c'est pas pareil.
Il faut beaucoup de moyens de toute façon.
De toutes les manières, nous savons que ce qui a été avancé par l'ANP pour justifier la révision constitutionnelle n'est pas vrai. C'est même faux. C'est pas un problème d'argent, nous le savons bien. Le problème d'argent ne s'est jamais posé, en tout cas pour l'élection démocratique, et soumettre la démocratie à la disponibilisation de l'argent. Je vous dis, il y a au sein de la majorité aujourd'hui des gens qui, à eux seuls, un seul individu peut financer le deuxième tour de l'élection présidentielle.
Vous faites sourire le professeur Tshibangu.
Je crois qu'il faut insister sur ce que je dis là, c'est vrai.
Voilà, professeur Tshibangu, puisque vous souriez, le professeur Mampouya pense que élire les sénateurs et gouverneurs, vice-gouverneurs directement par la population compliquerait la gouvernance.
Oui.
Sur les gouverneurs et vice-gouverneurs.
Je préfère prendre un peu les choses dans l'ordre. Un, l'élection de gouverneur. Moi, je propose justement qu'on supprime l'élection de gouverneur. Je l'ai dit et j'ai défendu devant les collègues parlementaires au moment du débat sur la révision de la Constitution. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Mampouya vient de dire. L'élection de gouverneur au suffrage universel, et même maintenant au suffrage direct, c'est tout simplement une incohérence en fait du fonctionnement de notre système. Voici ce qui se passe. Vous avez une assemblée provinciale au sein de laquelle un parti donné a une majorité écrasante, ou même deux ou trois partis dans le cadre d'une coalition. La population d'une province donnée a fait confiance à ce parti ou à ce groupe de partis. Et ils ont une majorité écrasante au sein de l'assemblée provinciale. Et donc c'est cette majorité politique au niveau de la province qui doit appliquer son programme politique, programme sur la base duquel elle a reçu la confiance du peuple. Et donc c'est cette majorité parlementaire au niveau provincial qui doit mettre en place l'exécutif provincial. Donc, le gouverneur, le vice-gouverneur et les ministres. On ne voit pas très bien pourquoi quelqu'un qui n'est pas un élu en province, c'est pas un homme d'affaires, un connaissant, si vous voulez, il va se présenter aux élections pour devenir gouverneur, il est élu gouverneur, mais il va appliquer quel programme? Son propre programme en tant qu'individu ou le programme de la majorité provinciale, en ce que je veux dire ici. Je pense qu'il faut rester dans un système symétrique, ce qu'on fait au niveau national, parce qu'on n'organise pas des élections pour avoir un premier ministre, qui est le chef du gouvernement au niveau national, on ne voit pas très bien pourquoi on doit organiser une élection pour choisir le gouverneur qui va diriger l'exécutif provincial. C'est une aberration de cohérence. Il faut supprimer ça. Deux, est-ce qu'il faut organiser une élection au suffrage universel du gouverneur? Ça, c'est la proposition de nos amis de la société civile. Je ne vois pas quel problème on veut résoudre en organisant une élection du gouverneur au suffrage universel. On risque de se trouver encore devant une situation d'incohérence, d'inadéquation, où vous avez un gouverneur qui a sa propre majorité, et puis l'Assemblée provinciale, il faudrait se trouver une autre majorité, on arrive dans une situation de cohabitation et de conflit. Je pense qu'il faut éviter cela. Et puis, on ne va pas organiser les élections à tout moment, à tout temps. Je pense qu'il faut, le système actuel, il est bon, mais il faut supprimer, et ça c'est mon avis, l'élection du gouverneur. Ça a donné lieu à la corruption. Et ce sont des pratiques condamnables, où on ne va pas asseoir une démocratie solide et digne de ce nom qui peut devenir exemplaire en Afrique, en acceptant une règle juridique qui favorise la corruption, comme on a vu le cas. Mais on peut améliorer ça. Donc, s'agissant des sénateurs, vous savez, ce sont les Américains qui ont inventé le fédéralisme au XVIIIe siècle. Le Sénat avait une mission bien particulière dans le système américain, représenter les petits États par rapport aux grands États. Donc, égalité entre les États fédérés. Tandis que, à la Chambre des représentants, là, c'est le poids démographique de chaque État qui doit être pris en compte. Ici, chez nous, on est resté dans cette logique-là du système américain du 16e siècle. Et donc, chaque province doit être représentée par le sénateur. Il y a des systèmes beaucoup plus modernes aujourd'hui. Regardez le fédéralisme belge, où vous avez le Sénat. En France, vous avez aussi le Sénat. Le Sénat ne représente pas ce qu'on appelle d'entité territoriale, c'est ça. Et donc, on peut concevoir un autre système adapté à nos réalités politiques et sociologiques. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui organiser l'élection des sénateurs.
Alors, par rapport aux compagnies de l'étranger, professeur.
Je vais terminer sur ce point-là pour dire que ce débat vient un peu trop tard. On a révisé l'article 198 de la Constitution en ce qui concerne le gouverneur, mais on ne va pas, trois semaines après, quatre semaines après, commencer à ouvrir le débat là-dessus. C'est fini. Et donc, l'article 104 de la Constitution sur les sénateurs, on ne va pas revenir là-dessus pour le moment. Il faut voir les années à venir, au cours de la deuxième législature, on pourrait éventuellement relancer le débat. S'agissant des Congolais de l'étranger, voilà, c'est prévu à l'article 7 de la loi électorale actuelle, qui les exclut comme électeurs. Bon. Écoutez, en principe, il n'y a pas de raison sérieuse pour pouvoir exclure nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ils peuvent aussi participer à la vie politique de la nation. S'il y a des obstacles d'ordre technique ou de logistique, des difficultés réelles, ça on peut en débattre. Mais par principe, on ne peut pas les exclure. On peut réviser l'article 7 de la loi actuelle pour leur permettre de voter aussi. Mais ça, c'est un problème technique qu'on peut résoudre lors de la discussion de la loi et avec les techniciens de la CIVI.
Maître Adim Mokoko, vous avez suivi le professeur Mampouya et Kibangu. Comment vous réagissez à leurs interventions?
Oui, ma réaction, c'est d'abord je salue leur point de vue par rapport aux élections des Congolais de l'étranger. Je commence par là parce que nous partageons le même point de vue et nous estimons qu'il n'est pas question que les Congolais qui se retrouvent pour une raison ou une autre à l'étranger puissent être privés de leur droit de plus légitime de pouvoir manifester la volonté de voir une bonne gouvernance établie dans son pays. Et donc, par conséquent, la société civile a fait des propositions d'amendement dans ce sens-là. Donc, je ne reviendrai plus en détail. Mais je reviendrai plutôt par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneur et même sénateur. Je crois que nous déplorons tous les mêmes difficultés, les mêmes faiblesses qu'on a vécues par rapport aux élections de 2006, nous, mon professeur et moi, comme société civile. Mais le problème qu'il faut résoudre là maintenant, c'est une question de redevabilité. Aujourd'hui, ils sont tous politiciens, ils peuvent, dans leur quartier général de parti politique, arriver à analyser et à évaluer la gestion, la gouvernance de nos provinces aujourd'hui, partout dans la République. Nous ne sentons pas le travail que font nos gouverneurs par rapport à l'impact que cela devra se faire vivre sur le terrain. Et vous n'allez pas dire que c'est une incohérence que moi, qui vis chez moi au Sankourou, je n'ai pas le droit d'aller voter le gouverneur qui aura un pouvoir de décision sur ma vie là-bas au Sankourou. Donc là, je suis désolée. Pourquoi ici maintenant qu'il faudrait que la dynamique de la participation populaire à la gouvernance du pays soit établie, nous consacrons-nous tous dans la constitution, la liberté individuelle de choisir, de voter. Donc on ne peut pas dire parce que c'est une question qui vient en retard, c'est vrai qu'il y a toujours un levier de concertation qu'il faut mettre en place. Le professeur Mapouya particulièrement a parlé d'une incohérence par rapport à la majorité provinciale et comment on pourrait mettre en exécution un programme ensemble. Aujourd'hui, puisqu'il a parlé, il a donné l'exemple des États-Unis, Barack Obama est en train de diriger avec un parlement, puisque nous avons suivi les élections à mi-parcours au niveau de la Chambre des représentants aux États-Unis.
Mais ça complique quand même la gouvernance là-bas.
Justement, mais la concertation est faite quoi? Il ne faudrait pas qu'on y aille avec une pensée de dictature quelque part. C'est ce que nous sommes en train d'éviter au Congo. Nous en avons souffert pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il faudrait que nous puissions en tout cas hausser nos casaques de dictateurs pour dire que nous y allons avec opposition, pas opposition en termes politiques, mais du moins avec des idées divergentes, hein, ça c'est ce que je voulais dire, que nous y allons tous avec des idées divergentes, que moi je suis gouverneur de la ville, évidemment, oui, je dois accepter ce que les autres peuvent faire et tout ce que nous pouvons avoir comme idée ensemble et travailler pour l'intérêt de la population. Donc moi je pense que nous devons cesser avec des engagements, des discours que nous ne respectons pas. Nous devons laisser aujourd'hui la population congolaise à donner un grand tournant à la démocratie dans le Congo.
Merci.
Et nous estimons qu'au niveau de la société civile, c'est une disposition qui devra vraiment passer en révision au niveau du Parlement lors de la rentrée prochaine et qu'il faudrait à tout prix, et nous allons nous battre, c'est un plaidoyer que nous sommes en train de faire, pour arriver à arracher cela, et si nous n'arrivons pas, bon, tant mieux, on utilisera d'autres stratégies prochainement.
Merci, Maître Adine Omokoko, vous êtes encore avec nous dans cette émission. Professeur Mampouya, vous demandiez instamment la parole tout à l'heure, mais avant, je prends deux réactions d'auditeurs pour vous. Yves Loubouli de Kinshasa, le risque de tout ceci, c'est que sur le plan organisationnel, cela nécessitera des coûts supplémentaires, alors que la raison de la révision, ça, on l'a déjà évoqué, cela causerait certainement du retard par rapport au timing imparti à la tenue des élections en RDC. Augustin Mwango de Kalima au Maniema, cette proposition me paraît légitime pour deux raisons. D'abord, c'est la consolidation de la décentralisation, seul moyen pouvant permettre aux provinces de se développer. Ensuite, diminuer les chances de réussite aux candidats gouverneurs qui comptent sur leur argent pour acheter les voix des députés. Mais dans ce cas-ci, il ne faudrait pas que le mandat soit renouvelable une seule fois pour éviter les abus. Professeur.
Oui, ça me fait un peu sourire parce que il faut être réaliste. Être réaliste, c'est quoi? Nous avons donné ici, le professeur Souvain et moi, l'exemple de l'Assemblée nationale, où les choses sont faites, tout au moins théoriquement, en cohérence. Le peuple fait des élections pourquoi? Pas pour hisser un individu, pas pour donner de pouvoir à quelqu'un ou donner un emploi à quelqu'un. On fait des élections pour assurer les conditions de la gouvernance. Donc les élections législatives sont faites pour qu'il y ait une majorité et que cette majorité mette en place un exécutif qui va exécuter le programme pour lequel elle a été élue. On le fait au niveau de l'Assemblée nationale, il faut le faire également au niveau des assemblées provinciales. Ça serait cohérent. Nous avons une majorité à l'Assemblée provinciale, il faut bien qu'elle mette en application son programme pour lequel elle a été élue, pour lequel le peuple lui-même, on parle là au nom du peuple, on dit il faut que le peuple fasse ceci, cela. Mais le peuple a déjà choisi un programme et une équipe. C'est cette équipe-là qui va mettre en place l'exécutant de son programme. Ça reste tout à fait cohérent et conforme à la volonté du peuple. Je remarque que mettre encore une conception, comme je le disais tout à l'heure, sans péjoration, une conception monarchique du pouvoir, il ne faut pas laisser dépendre notre sort, notre destin du gouverneur, ou tout comme on ne peut pas laisser non plus dépendre notre sort du président de la République. C'est pour ça que nous sommes contre le pouvoir concentré entre les mains d'une personne. Et en même temps, quand il dit que le gouverneur représente le président de la République, c'est une erreur.
par rapport à l'esprit même du fédéralisme ou de la décentralisation. Le gouverneur est une autorité provinciale. Il ne dépend pas du pouvoir central, qui dépend des électeurs de la province. Et qui, par conséquent, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi j'attaque toujours la dernière révision qui a violé l'autonomie des provinces en faisant révoquer éventuellement les gouverneurs et dissoudre les assemblées par le président de la République. S'il y a des problèmes, on peut leur trouver des solutions, mais celle-là n'a pas été la bonne et elle va à l'encontre de l'article 220, et je le dis avec force pour que certains puissent éventuellement attaquer cette révision sur ce plan-là.
Le professeur Netradine Omokoko a évoqué le cas des États-Unis où Barack Obama gouverne avec un parlement républicain.
Mais Barack Obama aurait bien voulu ne pas être dans cette situation-là. Il l'a dit, d'ailleurs, dans son premier discours après les élections de mi-mandat, il aurait bien voulu continuer avec sa majorité des démocrates. Mais c'est arrivé comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas oublier. Le système américain, je commençais par le dire, il est unique. Partout où il a été copié, il a donné lieu à des présidentialismes dictatoriaux et non pas au système américain. Regardez ce qui se passe en Amérique latine, où ce système a été copié purement et simplement. La culture démocratique et politique des Américains n'est pas la nôtre. Sans péjoration pour le peuple congolais, nous n'avons pas cette culture-là, qui est une culture multiséculaire aujourd'hui.
Professeur Kibango, avec vous, nous abordons directement la deuxième partie de cette émission. Quelles sont les autres dispositions de la loi électorale, professeur, qui pourraient faire l'objet de révision, d'après vous?
Oui, parce que nous avons une minute.
Rapidement, je voudrais
dire que si on doit rentrer dans la logique de nos amis de la société civile, c'est très sympathique, n'est-ce pas, Lise? Eh bien, il faudra organiser des élections au suffrage universel pour tous les exécutifs. Ben, le maire d'une ville, la ville de Mbujimayi ou de Lubumbashi, il faut aussi qu'il soit élu au suffrage universel.
Le chef de quartier,
le chef de secteur, même les chefs coutumiers, parce qu'ils gèrent des chefferies, n'est-ce pas? Les chefs de secteur sont les exécutifs. Les bourgmestres de nos communes, les communes de la Gombe, etc., de Lemba, Matete, ils doivent aussi être élus au suffrage universel parce qu'ils décident pour la population de la commune qu'on ne va pas s'en sortir. Donc il ne faut pas faire des propositions fondées sur l'idéalisme, il faut être réaliste, il y a des problèmes réels qu'il faut résoudre, et nous l'avons dit, je ne veux pas revenir là-dessus. Maintenant, quelles sont les dispositions qui pourraient être révisées de la loi électorale, d'après moi, parce que la rentrée parlementaire, c'est dans ce mardi prochain, et c'est une loi très importante. Comme nous venons de réviser la Constitution, cette révision a un impact sur la loi électorale, et donc il faut très rapidement s'attaquer à cette loi électorale pour permettre l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Eh bien, première chose, il y aura un débat de fond sur le mode de scrutin. Il y a eu déjà des discussions dans la presse, à un moment donné, il y a eu certaines propositions pour dire est-ce qu'on devrait conserver le mode de scrutin actuel, et que par des élections législatives, élections présidentielles, déjà évoquées, les élections législatives notamment. Est-ce qu'on garde le mode de scrutin actuel,
proportionnel,
le scrutin proportionnel, donc la représentation proportionnelle intégrale, fonctionnalité, ou bien il faut modifier ça. Il y aura un débat là-dessus, et je pense qu'il faut revenir. Dans quel sens? Ce qui a été fait en 2006, c'est la situation actuelle, a produit certains effets pervers. Moi-même, j'ai fait beaucoup de propositions, j'ai fait distribuer des documents au Parlement. J'étais à un moment donné idéaliste. Je me disais, bon, écoutez, il faut arriver à réduire tout de même le nombre de partis politiques au sein du Parlement. Parce que aujourd'hui, il y a une quarantaine, une cinquantaine. On arrive, c'est très difficile de gérer une majorité. Et donc, il faut mettre en place un mode de scrutin qui me permet d'aller vers la gouvernabilité, de dégager une majorité claire après les élections. Je peux proposer un système mixte. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. Mais, par réalisme, je constatais que la plupart des députés ne veulent pas qu'on touche au mode de scrutin actuel. Parce qu'il y va de leur survie. Beaucoup sont nous tous nous sommes des produits ou les enfants du scrutin proportionnel. Donc, on ne veut pas toucher à ça. Et je pense tout de même qu'il faut rationaliser. Il faut, à la limite, mettre un seuil d'éligibilité de 5%. C'est-à-dire pour arriver au partage, n'est-ce pas, des sièges dans les circonscriptions plurinominales, c'est-à-dire des circonscriptions où il y a plusieurs sièges, comme ici à Kinshasa, Mbujimayi ou Lubumbashi, pour arriver à la table du partage des sièges, eh bien, il faut au moins être représentatif d'un seuil, 3 ou 5%. On garde le système de 2006.
Alors, à part le mode de scrutin, professeur.
À part le mode de scrutin, il y a le problème du contentieux électoral. On a vécu des situations rocambolesques en 2006. Hein. Je me rappelle toujours le cas de ce député élu de la ville de Mbujimaï, qui vient de Mbujimaï où on l'embrasse, honorable, honorable. Il descend en Dili, au bas de l'avion, on dit, monsieur, vous n'êtes plus honorable, la Cour suprême vient de vous éviter. Alors, il faut éviter ça. Il faut réimplanter ce système pour éviter ce qu'on a vécu en 2007, où certains députés ont perdu le mandat devant la Cour suprême de justice sans avoir été au procès. Donc, il faut améliorer le contentieux, faire en sorte que toutes les personnes concernées dans une circonscription dont les élections sont contestées viennent au procès, se défendre, assister. Ça, il faut peut-être se contentieux. Deuxième innovation qu'il faut introduire, troisième,
très rapidement,
je pense qu'il faut supprimer les deux tours de scrutin qui sont prévus pour les scrutins, pour les élections locales, municipales. On prévoit scrutin majoritaire à deux tours. Je pense que c'est trop lourd, on peut s'inquiéter les courses. Pour que là, enfin, je termine, c'est la question de la transparence. La compilation des résultats des élections législatives se fait au niveau du district. C'est-à-dire on doit rassembler les bulletins, disons, les bureaux, les bulletins de vote ou les résultats de plusieurs bureaux de vote de plusieurs territoires, aller les concentrer au chef du district. Je pense qu'il faut supprimer ce système-là. La compilation ou le calcul et la publication des résultats doit se faire au niveau du chef de la circonscription, donc du territoire. Ça va éviter des tentatives de tricherie ou de manipulation.
Maître Adine Omokoko, vous avez suivi le professeur Sibangu par rapport aux autres dispositions de la loi électorale qui pourraient faire l'objet de révision. Quelle est votre analyse par rapport à ces propositions?
Oui, par rapport à cela, évidemment, le débat sur les modes de scrutin a été discuté aussi. Les organisations de la société civile ont réuni un atelier qui a été appuyé par Réussage et on vous le dit tout à l'heure, ont longuement discuté et ont proposé à ce que donc, les scrutins, le mode de scrutin qui sera soumis à l'amendement puisse être la proportionnelle au plus fort moyen. Évidemment, nous reconnaissons que les professeurs ne vont pas nous procéder s'il n'y a aucun mode de scrutin qui ne soit favorable et plus favorable par rapport à l'autre. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans l'un ou l'autre mode ou système électoral à adopter. Aussi, par rapport au contentieux électoral, c'est vrai, la société civile a réfléchi par rapport à cela, mais je ne pense pas que ce sont mes professeurs qui vont me contredire pour dire sur le contentieux. La difficulté qu'on a eu en 2006, c'est que les magistrats, les juges qui ont connu des contentieux électoraux ont calqué la procédure de droit privé par rapport à la procédure du contentieux électoral, qui est essentiellement une procédure qui ne rappelle pas devant la barre les partis. Hein? Les juges se contentent des éléments que leur fournit la structure qui organise les élections. Dans les cas passés, c'était la CENI, et cette fois-ci, ça sera la CENI, et arrive à statuer par rapport à cela. Donc, il y a aussi un débat par rapport au contentieux électoral. Vous voir donc le droit électoral est un droit qui ne doit pas être calqué qui ne doit pas être calqué par rapport au droit privé. Il y a nécessité, nous l'avons soumis dans nos propositions d'amendement, que l'on puisse renforcer les capacités de nos juges, que l'on puisse même arriver à instaurer la Cour constitutionnelle, parce que on se dit que la Constitution prévoit que c'est la Cour qui devra connaître des questions de contentieux électoral. Bon, par rapport au niveau de scrutin à deux tours, je pense que nous n'avons pas été ensemble, mais nous avons réfléchi dans le même sens pour aller vite. Par rapport à la transparence dans la compilation des résultats, je n'ai pas très bien suivi les professeurs, et aussi je constate que le professeur propose des amendements par rapport à d'autres aspects de choses, mais il oublie de faire une lecture genre, parce qu'aujourd'hui nous devons parler parité. Exactement, nous devons consacrer dans la Constitution. Aujourd'hui, les organisations féminines de la société civile avec le ministère du genre se battent pour que la loi sur la mise en œuvre de la parité puisse être prise en compte. Et évidemment, la réforme électorale ne doit pas seulement se focaliser sur la réforme de la loi électorale, ça doit prendre en compte beaucoup d'aspects. Hein?
Merci, Maître Adine. On vous garde encore dans l'émission qui va prendre pendant un peu de temps. Professeur Mampouya, vous allez réagir aux propositions du professeur Chibangu, mais prenons d'abord cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Alain-Joseph Lumanga, je suis à Kinshasa. Je propose que la loi électorale ajoute des critères de moralité publique au profil des candidats à tous les niveaux. Plus concrètement, pour changer la vision que l'on a de l'action politique au Congo, je propose que les preuves véritables de paiement des impôts durant les 5 dernières années soient une condition de recevabilité des candidatures.
Professeur,
par rapport à cela,
Oui,
d'abord, le système fiscal congolais est opaque. Je ne sais pas si la traçabilité existe. Moi, je paye des impôts, je ne sais pas comment je les paye, sauf les impôts indirects, quand je fais mes achats, etc. Mais l'impôt direct, je pourrais vous dire, je ne sais pas comment je le paye. Bon, en principe, il est retenu à la source, etc.
Ce serait
compliqué. Jusqu'à ce que un vrai système démocratique et de gouvernance modifie le système fiscal. Ce n'est pas encore fait. Et ce n'est pas à l'étude au niveau du gouvernement actuel.
Par rapport aux propositions du professeur Stibon.
Mais je suis tout à fait d'accord que d'abord, il faut modifier la disposition de l'article 114 qui concerne le président de la République, parce que c'est obligatoire. Après la révision constitutionnelle, il faut modifier toutes les dispositions relatives à l'élection des exécutifs. L'exécutif provincial, urbain, municipal, etc. Nous avons proposé, le professeur Spangui, modifier le système à deux tours, mais ce qu'il a proposé, c'est plutôt supprimer, comme moi-même. On ne va plus, il vaut mieux ne pas organiser l'élection en tant que telle du gouverneur, des exécutifs provinciaux, locaux, etc. Il faut laisser à la majorité parlementaire, à tous ces niveaux-là, le droit de désigner son exécutif, son exécutant de son programme. Donc, on doit supprimer ces articles-là, 153, 158, 183, 199 et 215. On doit pouvoir les adapter à ce nouvel esprit. J'espère que les gens qui ont critiqué la corruption lors de l'élection de gouverneur seront conséquents avec eux-mêmes. Le système que nous proposons supprime totalement la corruption, parce qu'il s'agit que la majorité mette en place son gouvernement. Voilà pour ce qui concerne les propositions du professeur Chibangu, et de toute façon, ça va de pair avec la nécessité de la révision constitutionnelle qui a eu lieu.
Professeur, il y a deux auditeurs, William André de Kananga au Kasai Occidental et Guy Mondele, qui proposent qu'on ajoute l'aspect lié au niveau d'études des candidats.
Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose, mais vous savez, je vous dis les choses telles que je les pense. Et je l'avais dit au moment du débat, aussi bien quand on parlait de l'âge que quand on parlait du niveau d'études, c'est vrai qu'il faut un minimum quand même pour pouvoir s'occuper des affaires de l'État. Donc peut-être on peut trouver un niveau optimal d'études pour cela. Je ne vais pas me prononcer sur quel niveau imposer à chaque élection. Ce n'est pas mon problème. On a parlé tout à l'heure de la probité des candidats, etc. Vous savez, c'est un élément très évasif, un élément très subjectif. Quelle preuve, moi, j'ai que tel candidat est honnête, il est probe, etc. C'est pour ça que moi, j'ai plus confiance dans les structures, dans les mécanismes, dans les règles, que dans les individus qui se proclament tout d'un coup intègres ou probes. Donc, il faut des critères qui soient vraiment objectifs et non pas subjectifs ou difficiles à déterminer.
Alors, pour les auditeurs et internautes qui nous suivent, nous venons de lancer le débat sur la révision de la loi électorale. Le débat va continuer avec d'autres émissions où nous prendrons d'autres orientations. Professeur, vous pouvez déjà conclure. Professeur Mampouya.
Moi, je conclus, non pas spécialement là-dessus. Nous sommes en train de discuter de la révision de la loi constitutionnelle, de la loi électorale, sans savoir très bien si les élections auront lieu. Il est possible qu'il n'ait pas lieu à cause des contraintes. Moi, je ne dis pas que c'est la mauvaise volonté de tel, à cause des contraintes. Seulement, je préviens, parce que les Congolais ne veulent pas prévoir les choses. Si tel était l'avènement, qu'il n'y ait pas d'élection à la fin de cette année, eh bien, il n'y a plus de président de la République, il n'y a plus de députés, il faut recommencer les choses à zéro, ça signifie qu'il faut trouver une nouvelle base de légitimité pour les institutions qu'on devra mettre en place. En tout état de cause, il y aura
vide juridique.
Vide, c'est pas un vide juridique, non, il n'y aura plus d'institutions issues des élections de 2010.
Professeur Chibangu, conclusion.
Oui, je vais conclure sur le point suivant. La loi électorale était élément important pour la réussite du processus électoral qui est en cours. Alors j'invite mes collègues parlementaires pour que, avant la fin de ce mois, que nous puissions voter la loi, parce qu'il faut permettre à la CENI d'élaborer des logiciels qui prendra 7 ou 6 mois, etc. Et donc, il ne faut pas que nous puissions bloquer la CENI dans son travail parce qu'on n'a pas adopté, n'a pas révisé la loi électorale. Il faut aller vite et il faut que ça soit, pour moi, un projet de loi venant du gouvernement sur la base de pour gagner du temps plutôt qu'une proposition de loi présentée par les députés. Ça va nous prendre beaucoup de temps.
Merci. Maître Adim, juste un mot en guise de conclusion, je vous en prie. Un mot.
Un mot en guise de conclusion. Nous espérons que le travail que nous sommes en train de mener, on trouvera une réponse favorable auprès des parlementaires et même des décideurs de tout ordre dans notre pays. Nous espérons que
merci, Maître Adim, mon coco. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci, professeur, d'y avoir participé. Vous pouvez la réécouter à 14h de Kinshasa ou la retrouver sur radiocapi.net. Au revoir, à demain.